Jean-Philippe Namon, agrégé et docteur en histoire, chercheur associé au CNRS, vient de publier aux éditions de l'Institut d'études slaves un ouvrage intitulé « La colonie tchécoslovaque, une histoire de l'immigration tchèque et slovaque en France 1914-1940 ». Au micro de Paul Bauer, il revient sur cette page mal connue de l'histoire des relations franco-tchécoslovaques et nous expose le rôle central joué par les immigrants tchécoslovaques dans la France de l'entre-deux-guerres.
Chapitre de l'histoire. Jean-Philippe Namon, bonjour.
Bonjour.
Alors une première question, qu'est-ce que la colonie tchécoslovaque de France et pourquoi porte-t-elle ce nom de colonie ?
Alors le terme de colonie s'emploie à la fois pour désigner la fédération d'associations qui existe entre 1914 et 1940 en France, mais aussi pour désigner à l'échelle locale, dans une commune, l'association tchécoslovaque du lieu, donc la colonie tchécoslovaque d'Argenteuil, celle de Lens, etc. Alors, elle est créée en 1914, à l'été 1914, avec un objectif double. Le premier objectif, c'est d'organiser l'enrôlement de volontaires tchèques au départ, tchécoslovaques ensuite, dans la Légion étrangère française, pour combattre contre l'Autriche-Hongrie, pour libérer la Bohème, puis la Tchécoslovaquie. Et l'autre objectif, c'est d'éviter aux Tchèques qui vivent à Paris, essentiellement, d'être considérés par les autorités françaises comme des ressortissants d'une nation ennemie. Donc il s'agit en fait de leur fournir des cartes d'identité et d'œuvrer pour la protection de leurs biens matériels, pour leur éviter la mise sous séquestre de ces biens.
Est-ce qu'elle parvient à ses objectifs aux sorties de la guerre ?
Alors, elle y parvient en fait dès le départ, c'est-à-dire dès l'automne 1914, parce que le ministère de l'Intérieur autorise cette structure à délivrer donc des cartes d'identité. Elle devient une sorte de consulat sans état. À partir de 1915, quand s'organise l'émigration politique avec des gens comme Masaryk ou Benesch, elle est reprise en main, mais elle conserve cette possibilité de délivrer des cartes d'identité. Donc d'emblée, elle le fait, et d'emblée, elle évite également aux Tchèques de France d'être emprisonnés, comme c'était la possibilité.
Et après la Première Guerre mondiale, quel est son rôle en France ?
Alors après 1918, à partir de 1918, elle a une volonté englobante, c'est-à-dire qu'elle se transforme en un réseau qui n'est plus seulement parisien, car les premières associations étaient seulement parisiennes, mais elle travaille à une échelle nationale, c'est-à-dire l'échelle du territoire français, et elle accompagne le flux migratoire qui se développe à partir de 1920. Donc c'est une fédération.
Est-ce qu'on peut dire que cette fédération constitue une sorte d'acteur dans les relations bilatérales françaises et tchécoslovaques ?
Oui, alors c'est comme ça qu'elle s'est elle-même identifiée dès le départ, c'est-à-dire dès l'été 1914, c'est un acteur politique. Mais par la suite, elle est un relais dans les années 1920, dans les années 1930, un relais pour l'État tchécoslovaque, c'est-à-dire l'ambassade, les consulats, qui se servent de la colonie, des associations qui la forment, pour recueillir des informations sur les besoins des immigrants et pour distribuer une aide sous la forme de subventions, aide aux travailleurs, aux mineurs, aux enfants, etc.
Vous parliez de flux migratoires. Qu'est-ce qui fait que dans les années 30, après la création de la Première République tchécoslovaque, la France apparaît comme une terre d'élection pour des migrants tchèques et slovaques ?
Alors, l'émigration tchécoslovaque, même avant 1914, est un mouvement long. Il se poursuit à partir de 1918. Il est certain que certains émigrants tchécoslovaques rentrent au pays. en 1918, mais d'autres restent en émigration ou partent parce qu'il y a des perspectives de travail, qu'il s'agisse d'autres pays que la France, hein, d'autres pays européens. Et surtout, à partir de 1921, les États-Unis ferment leurs frontières en établissant des quotas. Donc il faut trouver une autre solution pour ceux qui veulent partir. Et la France en est une, puisque en 1920, une convention d'émigration est signée entre les deux pays, qui reprend à peu près les mêmes termes que les deux conventions que la France avait déjà signées en 1919 avec l'Italie et la Pologne. Donc il y a des possibilités et c'est pratiquement la France qui devient le premier pays d'émigration pour les Tchécoslovaques à partir de 1923-24.
Toujours une question sur les migrations. Comment expliquez-vous ce départ de Tchécoslovaques?
Alors, ça s'explique parce qu'il y a des opportunités en France, c'est-à-dire que les entrepreneurs français ont besoin d'une main-d'œuvre étrangère, ils font appel à des Italiens, ils font appel à des Polonais, et la Tchécoslovaquie, qui est un pays allié, qui donc a signé cette convention, est une possibilité, est un vivier en quelque sorte pour les entreprises françaises. Donc elles sont très actives pour recruter, et l'État français les aide, puisque à partir de disons entre 1929 et 1934, il y a même une mission d'émigration en Europe centrale qui recrute principalement des ouvriers agricoles depuis Bratislava et qui sont donc des Slovaques. Donc il y a une efficacité en fait de l'État et des entreprises françaises à recruter, et notamment par exemple des spécialistes, des verriers par exemple tchèques.
Est-ce que vous pouvez quantifier ces flux migratoires et comment ces migrations se distribuent sur le territoire français ?
Oui, alors on peut estimer que au début des années 20, il y a environ 5000 Tchécoslovaques en France, et on arrive probablement vers 1930-31 à pratiquement 70 000. Alors ce flux confirme le rôle important de Paris et la région parisienne. Il y avait beaucoup de Tchèques parisiens avant 1914. Il y a maintenant en banlieue beaucoup d'ouvriers slovaques notamment, et par exemple il y en a à peu près 1500 vers 1931 à Argenteuil, la région Argenteuil-Gennevilliers. Pour le reste, on voit apparaître l'Est, c'est-à-dire la Moselle, le Nord-Pas-de-Calais, essentiellement dans la région de Lens, et puis quelques communes comme Vianne dans le Lot-et-Garonne, la Grand-Combe dans le Gard, et puis une dispersion pour le reste d'ouvriers agricoles un peu partout dans les régions françaises.
Une fois la Tchécoslovaquie créée en 1918, les objectifs de la colonie atteints durant la Première Guerre mondiale, comment expliquez-vous le maintien de cette fédération dans la France de l'entre-deux-guerres ?
Eh bien, après 1920, elle va effectivement mener une action essentiellement sociale. C'est-à-dire que les besoins des immigrants tchécoslovaques sont grands. Et ils ont d'abord besoin de conseils, par exemple, parce qu'ils arrivent dans un pays dont ils ne connaissent en général pas la langue. Ils ont besoin aussi qu'on pourvoie à leurs besoins en cas de maladie, de période de chômage. Éventuellement, il peut s'agir de payer des enterrements, ce genre de choses, hein. Et puis, la colonie va aussi beaucoup s'occuper des enfants. Par exemple, pour leur payer des vacances ou des excursions, mais aussi pour créer des classes, des écoles tchécoslovaques qui vont se former dans les lieux où il y a concentration importante. On va aussi, par exemple, organiser toute une action culturelle pour monter des pièces de théâtre, pour organiser des soirées communes, etc.
Quelle est la situation de ces fédérations au moment de la disparition de la Tchécoslovaquie en 1938 ?
Alors, pour ce qui est de la situation en France, il y a une situation qui est peut-être un peu particulière, dans le sens où l'ambassadeur Ossouski, à partir de 1939, c'est-à-dire de mars 1939, quand la Tchécoslovaquie n'existe plus, reste ambassadeur tchécoslovaque et confirmé par les autorités françaises dans ce rôle. Et la colonie tchécoslovaque est pour lui un pilier, une fédération qui reste très active et qui surtout veut jouer en 1939 le rôle qu'elle a joué en 1914 et pense-t-elle même en 1870, parce que déjà en 1870 il y avait eu une action militaire. Donc 1870, 1914, 1939, trois moments pour œuvrer politiquement, militairement, et cette colonie donc se montre très active, notamment par une propagande très forte.
Quel est son destin durant la Seconde Guerre mondiale?
Alors, avec la débâcle, la colonie tchécoslovaque cesse d'exister immédiatement. C'est-à-dire qu'elle est encore active en avril 40, et puis quand les troupes allemandes arrivent, elle passe dans la clandestinité, elle cesse concrètement d'exister. Certains dirigeants partent par exemple vers la Grande-Bretagne. D'autres sont obligés de passer dans la clandestinité, de se cacher, hein, tout simplement. Et puis les associations locales comme la colonie centrale donc cessent de fonctionner. Certaines archives sont brûlées pour ne pas être saisies par la Gestapo, et donc il y a une mise en sommeil. Par contre, certains dirigeants qui étaient actifs ou certains membres d'associations entrent dans la résistance, qu'il s'agisse de gens du Sokol par exemple, du Sokol de Paris, ou bien qu'il s'agisse des communistes qui eux n'étaient pas entrés dans la colonie mais qui vont jouer un rôle également dans la résistance française.
Est-ce que la fédération, la colonie française, renaît après la fin des hostilités, la Seconde Guerre mondiale?
Alors, elle va pas renaître directement sous ce nom. Il y a une volonté d'anciens acteurs de la colonie tchécoslovaque de la faire renaître, en effet. Donc, une fédération va réapparaître, et ceci dès la fin 1944, début 1945. On se réorganise, mais beaucoup d'immigrants sont partis ils sont partis d'abord dans les années 30. Beaucoup de Slovaques sont partis pendant la Seconde Guerre mondiale parce que existait un État slovaque en théorie indépendant, et certains dirigeants de la colonie ont tout simplement disparu. L'ancien président a été déporté et mort en déportation, par exemple. Mais il y a cette volonté de la faire renaître. Simplement, les divisions entre les communistes et les autres, les acteurs historiques de la colonie de l'entre-deux-guerres, vont faire que la colonie ne va pas renaître sous cette forme. Une association des originaires de Tchécoslovaquie communiste à partir de 1948 est reprise en main par l'ambassade au moment du passage au communisme en Tchécoslovaquie, et puis des associations comme le Sokol n'entrent pas dans cette nouvelle fédération et donc restent à l'écart de façon plus isolée.